Et nous allons passer toute une nouvelle semaine de découverte au cœur du Limousin sur un site de Limoges. Nous sommes installés à la distillerie du centre, rue de Belfort. Distillerie du centre qui est une des grandes pages de l'histoire du Limousin, de Limoges en l'occurrence, et que nous allons partager avec Pierre Nouveau qui est le directeur du site, mais pas seulement, maître artisan également, distillateur, liquoriste d'après mes informations. On va parler de cet univers tout au long de la semaine ensemble. Mais je le disais, on est vraiment sur un pan de l'histoire de Limoges ici parce que l'histoire de la distillerie du centre, elle remonte à de très 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 nombreuses années.
Effectivement, c'est sans doute l'une des plus anciennes entreprises de Limoges, puisque on trouve son origine en 1789, dans les vieux quartiers de Limoges évidemment à l'époque, c'est-à-dire près des Halles, et elle s'est installée dans ses locaux actuels dans les années 1860-1865, donc ça fait déjà plus de 150 ans.
Alors, histoire effectivement importante de Limoges, mais de votre famille également.
Oui, nous sommes dans le vin depuis 1930, c'est mon grand-père Henri Nouveau. Mon père lui a succédé quelques années après, et bon, moi-même j'y suis depuis une trentaine d'années. Et en 1981, nous avons passé un accord avec le propriétaire précédent de la distillerie du centre pour reprendre son entreprise et l'intégrer à nos activités. Et nous avons décidé à ce moment-là d'essayer de relancer cette distillerie qui avait connu son heure de gloire il y avait quelques dizaines d'années, et puis qui était un peu tombée en désuétude. Donc nous lui avons redonné quelques moyens, nous avons créé des nouveaux produits, et aujourd'hui elle a retrouvé une partie de son lustre d'antan.
On a peut-être du mal à imaginer aujourd'hui l'importance des distilleries, hein, parce que là on parle de la distillerie du centre, mais c'était les distilleries à l'époque à Limoges. Il y en avait près d'une cinquantaine, on était vraiment sur une ville réputée.
Effectivement, ça peut surprendre aujourd'hui parce que l'avant-dernière a disparu il y a 40 ans à peu près, la précédente c'était 10 ans avant. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, et nous avons recensé cela dans les guides professionnels de la Chambre de commerce ou du Tribunal de commerce, il y avait 48 distillateurs liquoristes installés dans Limoges intramuros de l'époque, qui était évidemment beaucoup moins étendu qu'aujourd'hui. Et sur ces 48 de 1900, un certain nombre ont tenu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ça a été, on peut dire, là, un peu la débandade, malheureusement, parce que les modes de vie ont changé, parce que de nouveaux produits sont arrivés, parce que bon, des personnes aussi ont pâti de la guerre. Et donc, il y en a eu beaucoup moins. Et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, la distillerie du centre, dans les distilleries historiques.
Alors la question, c'est pourquoi Limoges et cette histoire avec la distillerie ?
C'est vrai, c'est une surprise, parce que, en fait, paradoxalement, les distilleries anciennes n'utilisaient pas de matières premières locales. On ne travaillait pas les fruits ou les légumes que l'on pouvait produire en Limousin. Nous avons créé en 1982 une liqueur de châtaigne, et c'était une première donc pour mettre en valeur les produits régionaux. Mais sinon, ce qui était travaillé historiquement, c'était le cacao, le café, la mandarine, la vanille, le triple sec, bon, plein de choses qui ne venaient pas du tout de la région, mais qui venaient au contraire de très loin, des îles, des Antilles, des colonies, enfin d'un peu partout dans le monde. Mais on avait plusieurs atouts à Limoges. Le premier, même si aujourd'hui ça surprend un peu, Limoges était un carrefour routier, ferroviaire et commercial très important depuis l'époque des Gaulois, depuis Augustoritum. Donc le fait que ça soit sur un axe important, ça facilitait évidemment l'installation des activités de production. La seconde, c'est que c'était un carrefour entre les voies nord-sud et sud-nord, et puis les voies ouest-est. Ouest, c'était Bordeaux, La Rochelle, c'est-à-dire les ports par lesquels arrivaient tous les produits venant des colonies, des Indes, entre autres le rhum aussi, qui était un ingrédient qui était très utilisé à cette époque. Et donc Limoges était la première ville à tradition industrielle à proximité de ces ports. Les ports n'avaient qu'une fonction de réception et de distribution. Donc ça, c'est un des éléments importants. Le troisième, c'est, et ça peut paraître paradoxal quand on parle de boissons alcoolisées, mais c'est la qualité de l'eau. On a la chance d'être sur du granit chez nous et d'avoir une eau très pure. Or, l'eau est beaucoup utilisée à la fois dans la distillation et puis dans le coupage des liqueurs. Quand on fait une distillation, on sort des produits qui font 85 ou 88 degrés, donc il est évident qu'on ne les boit pas comme ça, donc on les coupe avec de l'eau, et le fait d'avoir une eau très pure, bien c'est un atout, ça donne un goût encore meilleur. Il y en a un avant-dernier, ce sont les chênes. On produit des chênes en Limousin qui sont beaucoup utilisées pour faire des barriques, qui étaient dans le temps le seul contenant. Le verre existait très peu, le plastique évidemment pas, donc on stockait tout dans des barriques. Et le Limousin produit des chênes qui sont très bons pour stocker, pour faire vieillir des eaux de vie. Non pas les vins, les barriques de Bordeaux, de Bourgogne, sont surtout faites à partir des forêts de l'Allier, de Troncé, qui font des grains plus fins, mais par contre le Limousin a des bois plus puissants, plus serrés, et qui conviennent très bien aux eaux de vie. Et donc la dernière raison, et qui n'est évidemment pas la moindre, ce sont la qualité des hommes et des femmes qui y travaillaient, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes, aujourd'hui ça a changé. Il y a toujours eu à Limoges une tradition du travail très soigné, de l'innovation. Ça a été le cas dans la porcelaine, dans les émaux, dans les chaussures. On ne faisait, à Limoges, on ne sait faire que de la qualité, que du haut de gamme. Et c'était la même chose dans les liqueurs. Donc il y avait une tradition de qualité et puis une émulation, parce que des activités marchaient bien, des collaborateurs d'une distillerie qui était un peu entreprenant se mettaient à leur compte, créaient une autre distillerie, et voilà comment beaucoup de choses ont essaimé.
Voilà, le pourquoi de ces 50 distilleries quasiment. Alors quand on vient ici au cœur du musée de la distillerie, on peut avoir trace, on voit trace de toute cette histoire. Alors celle de la distillerie du centre, qu'on appelait, d'après ce que je vois, Société Française de la Grande Distillerie du Centre, s'il vous plaît, excusez du peu. Et puis juste en dessous, on a effectivement quelques confrères qui étaient là, qui n'existent plus aujourd'hui. Alors votre volonté à vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'ancrer cette entreprise dans son temps, dans l'ère d'aujourd'hui, tout en lui conservant cette large part d'histoire évidemment très très importante.
Oui, bien sûr qu'on fabrique avec des techniques d'aujourd'hui, mais en utilisant vraiment le maximum les recettes, les processus, les matériels, les outils, et on peut le voir là en fabriquant, quand on parcourt la distillerie, là qui est en train de travailler, on en fait vraiment un témoin du passé, c'est-à-dire que on montre comment on fabriquait des liqueurs et des apéritifs il y a 80, 100 ou 150 ans, parce que à part quelques petites machines qui se sont installées, le reste n'a pas changé.
Un savoir-faire ancestral que l'on va découvrir évidemment tout au long de cette semaine. Très concrètement, on parlera du processus de fabrication, mais dès demain, on va passer juste dans la pièce d'à côté pour revenir justement sur l'utilisation de tous ces matériaux et tout ce savoir-faire ancestral. Et c'est notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de la distillerie du centre à Limoges, j'allais dire installée à Limoges, mais depuis bien longtemps, une vraie page d'histoire que nous découvrons tout au long de cette semaine avec Pierre Nouveau, directeur de l'entreprise, et je le disais, maître artisan et distillateur liquoriste également. On a remonté, retracé alors dans les très grandes lignes évidemment l'histoire de cette entreprise dans le rendez-vous d'hier. On vous invite à aller sur le site internet d'ailleurs qui reprend une partie de l'histoire, et puis de venir ici, c'est encore le plus simple pour qu'on vous explique tout ça. On a parlé de ce savoir-faire ancestral qui est évidemment au cœur même des activités. Ce savoir-faire, vous y tenez notamment à travers ce musée. Quand on vient ici, on est replongé finalement en plein cœur de l'époque. C'était voulu, évidemment.
Évidemment, mais quand on a repris cette distillerie il y a 35 ans maintenant, elle était très très fatiguée, mais elle avait encore un souffle de vie. Et on a décidé de la conserver vraiment au maximum dans l'état dans lequel elle était. Et de pas remplacer toutes les vieilles étagères ou les vieux meubles ou les vieux outils par des choses beaucoup plus modernes. Donc on travaille vraiment dans une ambiance qui est celle d'il y a 80, 100 ou 120 ans. Donc nous continuons à utiliser les techniques, les diverses techniques pour fabriquer des apéritifs et des liqueurs tels que ça se faisait en temps.
Alors ça veut dire qu'autour de nous, il y a des matériaux qui sont véritablement d'époque.
Ah tout à fait, ceux-là, on les voit d'ailleurs sur quelques photos du début du XXe siècle, c'est-à-dire du début des années 1900, et ça n'a vraiment pas changé. Il n'y a que les collaborateurs qui malheureusement nous ont quittés.
On vieillit tous un petit peu, la relève heureusement arrive derrière. Ce qu'on peut dire, c'est vrai que quand on pense à l'industrie agroalimentaire, concrètement, on sait qu'aujourd'hui les choses sont très aseptisées. Là, au contraire, il y a un vrai décalage, mais tout ça évolue et autorisé, bien évidemment.
Oui, on a la chance ou la spécificité d'utiliser une matière première qui est l'alcool, qui, sous une forme ou sous une autre, est un peu la base de tout ce qui est utilisé pour nettoyer ailleurs, pour nettoyer, pour désinfecter. Donc nous, dans un milieu alcoolisé, même si on n'en perçoit pas les odeurs. Là, on ne risque rien quand on travaille à la distillerie du centre ou quand on la visite. On ne va pas sortir grisé par les vapeurs d'alcool. Il n'y a pas du tout de ça. Mais il n'empêche que dans nos matériels, dans nos récipients, on n'a pas besoin d'avoir de l'inox partout ou du carrelage, ce qui nous permet de continuer à travailler vraiment dans l'ambiance très ancienne.
Et à l'inverse, ça n'aurait pas de sens de tout moderniser. Ça ne rimerait plus à rien finalement par rapport à l'histoire de l'entreprise.
Ça serait un peu anachronique. Mais peut-être qu'un jour on nous obligera à le faire. Mais enfin, tant qu'on résiste, un peu comme le village gaulois que tout le monde connaît.
Donc pour l'instant tout va bien. Venez profiter donc de cette remontée dans le temps. Autour de nous il y a évidemment des étagères avec une partie de la production. Ça veut dire une gamme riche, différents produits proposés.
Oui, nous fabriquons, je pense, parce que j'ai pas le chiffre exact, mais une douzaine de produits différents, tant des apéritifs à base de vin, d'autres à base de fruits, de plantes, des liqueurs de fruits, des liqueurs de plantes, des digestifs comme la gauloise ou la sève centrale, qui est la plus vieille liqueur de Limoges et de la maison, qui a été très très primée dans les années 1880 jusqu'à 1910 ou 15, mais également des choses un peu plus récentes comme la liqueur de châtaigne, comme toute une gamme de liqueurs de fruits, de la fraise, de la framboise, de la myrtille, de la noix, de la mûre, bon, pour représenter les différents produits que l'on peut trouver dans notre région.
Puis il y a aussi le côté design, on essaye de travailler là-dessus, c'est là pour allier un petit peu le savoir-faire, l'ancestral et le moderne.
Oui, si on fait des produits de bonne qualité, cela n'empêche pas aussi que ça soit agréable à regarder. Et comme ce sont des produits que les gens aiment offrir à des amis ou à des gens chez lesquels ils vont, autant les mettre quand même dans un récipient et dans un contenant esthétique. Maintenant, on ne met pas beaucoup d'argent dans les emballages, parce que les emballages, c'est fait pour être jeté. On préfère quand même de loin privilégier ce qu'il y a à l'intérieur.
Le contenu plus que le contenant. Alors, on va demain et dans le rendez-vous de jeudi évoquer vraiment le processus de fabrication. On est en train de percer quelques-uns des secrets de vos produits ici. Ce processus, il y a eu des études qui ont été menées pour être sûr d'être au plus près de ce qui se faisait il y a de nombreuses années en arrière.
Bien, d'une part, quand nous avons repris la distillerie, son précédent dirigeant était encore là et il est resté quelques années avec moi à m'apprendre comment il fabriquait. Et puis ensuite, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages. Je me suis renseigné aussi chez d'autres vieux distillateurs liquoristes dans d'autres régions qui m'ont donné quelques explications complémentaires. Mais comme la distillerie du centre était restée plusieurs dizaines d'années sans évoluer réellement, bien, on a tout de suite trouvé des techniques qui étaient en pratique il y a 80 ans.
Et vous attendez, donc c'était parfait.
Rien n'avait bougé.
On pense aussi à la suite. Là, c'est bon, on l'a dit, une histoire de famille, hein, le grand-père, le père, vous. On se dit, faut absolument que ça continue. On transmet quelques bribes.
Alors, j'espère que ça continuera. Pour l'instant, mes enfants ne sont pas encore vraiment en âge d'y travailler, mais bon, ils s'y intéressent un peu. Mais j'ai des collaborateurs aussi de tous âges, donc j'espère bien que le savoir-faire sera poursuivi, sera maintenu. Mais c'est vrai que ça serait dommage de laisser disparaître cette activité. Mais bon, pour l'instant, j'y suis encore et je tiens bien la barre.
Et puis les Limougeaux comptent sur vous aussi.
Je l'espère. Depuis des années, nous travaillons à assurer la promotion des produits régionaux et les Limousins sont fiers de plus en plus de leur production et s'intéressent et jouent le jeu. Donc, on a tous besoin les uns des autres.
Il y a des raisons d'être fiers avec de nouvelles distinctions, mais ça, on en parlera en fin de semaine. Pour l'instant, on va se retrouver demain pour se relever les manches parce que, évidemment, pour pouvoir présenter ces produits au public, il faut les fabriquer et on va s'y mettre ensemble dès demain. Troisième rendez-vous de cette semaine installée à la distillerie du centre à Limoges et toujours en compagnie de son directeur Pierre Nouveau qui nous accompagne et nous fait découvrir cette histoire d'entreprise, histoire familiale et histoire surtout de Limoges, hein, on l'a dit, qui remonte à 1789 et évidemment cette histoire qui se perpétue grâce à la famille Nouveau. On va parler de la fabrication cette fois-ci parce qu'on a beaucoup parlé d'histoire certes, mais encore faut-il comprendre comment vous travaillez aujourd'hui parce que certes on a traversé le musée de la distillerie mais c'est une entreprise qui est en activité, qui propose des produits que l'on va pouvoir venir découvrir. Et là, on est au cœur de ce qui vous permet de continuer cette activité avec deux techniques différentes en fonction des ingrédients que vous allez utiliser.
Exactement. Schématiquement, on utilise soit la macération pour les fruits ou les plantes qui ont du jus, soit la distillation pour ce qui n'en a pas. Bon, alors les fruits qui ont du jus, c'est quoi ? C'est la fraise des bois, la framboise, la myrtille, grosso modo les fruits rouges. Donc là, on les travaille. Peut-être que vous avez eu une grand-mère qui faisait sa crème de cassis avec les fruits du jardin. Ben nous, c'est exactement la même chose, avec des quantités un peu supérieures à un jardin, mais pas beaucoup plus. Donc les fruits rouges, on les ramasse, on les récolte plus exactement donc l'été en général. Ça va de fin juin à fin août ou début septembre pour les mûrs. Il nous les faut justement très mûrs, très juteux, très savoureux. On ne cherche pas la présentation puisqu'ils vont être écrasés, ceux-là, on les verra plus. Mais on veut qu'ils aient beaucoup de parfum. Donc quand on les a récoltés, on les met dans de l'alcool. De l'alcool qu'en général on réduit à 60 degrés pour ne pas brûler le fruit. Et on va les laisser pendant quelques jours ou quelques semaines, c'est variable, et on goûte régulièrement pour voir si l'alcool prend bien le parfum de ces fruits. Et puis au bout de quelques temps, on va séparer la pulpe, la partie solide, que l'on va éliminer après l'avoir pressée pour en récupérer le maximum. Et cette macération de fruits, qui est sucrée juste par le fruit, ça ne suffit pas. On y rajoutera du sirop de sucre, on y rajoutera peut-être d'autres ingrédients selon la recette que l'on veut. Et le produit sera à peu près prêt à la consommation. Et puis il y a une deuxième technique pour les fruits ou les plantes qui n'ont pas de jus, c'est la distillation. Alors chez nous, le principal fruit qui n'a pas de jus, c'est la châtaigne. Parce que pour extraire du jus d'une châtaigne, il faut presser fort. Donc là, on utilise la distillation. Mais avant, on va les faire cuire. Les châtaignes, on les fait cuire avec la peau, comme pour les manger, dans nos bassines, dans nos fourneaux là que vous avez sous les yeux. On y met de l'eau.
On peut en mettre quand même. Hein.
On peut en mettre, oui, on met 40 à 50 kilos dans les bassines. Et donc, on va chauffer avec nos fours à bois qui sont juste en dessous. Donc, ça fait chauffer l'eau et puis ça fait cuire les châtaignes. Lorsqu'elles sont cuites, comme pour les manger, on les égoutte sur un tamis et ensuite on va les écraser. Vous voyez ce pilon, comme un peu les femmes africaines pilent le mil. Nous, ce sont les châtaignes que l'on va éclater. Et ce que l'on obtient, c'est un mélange de peau et de chair, de farine. On va le mettre dans l'alambic avec la peau, tout ensemble. On va ensuite y mettre de l'alcool également. On va le laisser quelques jours pour que ça s'imprègne bien. Et ensuite, on va procéder à la distillation. Donc la distillation, c'est un procédé qui n'est pas nouveau puisqu'il a été inventé par les Arabes il y a à peu près 3000 ans maintenant. Al-ambik, alcool, ce sont des mots à connotation et d'origine arabe. Les civilisations arabes, il y a 3000 ans, étaient extrêmement avancées techniquement et ont inventé également avec ce mot algèbre, par exemple. Donc il y a plein de techniques très anciennes qui datent de cette époque. Et donc la distillation est utilisée pour extraire les parfums de fruits ou de plantes qui n'ont pas de jus en utilisant deux éléments, d'une part l'alcool et d'autre part la chaleur. Le phénomène est fondé sur la différence de densité et de volatilité des différents corps qui vont être utilisés. Et comme l'alcool est le composant le plus volatile, quand l'on va chauffer, ce sont les vapeurs d'alcool qui vont s'évacuer en premier, mais ce sont des vapeurs d'alcool qui auront pris le parfum des plantes ou des fruits que l'on a distillés. Donc les vapeurs montent, elles sont canalisées par la forme du chapiteau, vous voyez, on dirait vraiment un chapiteau de cirque, elles passent dans ce tuyau qui s'appelle le col de cygne, c'est un langage très imagé, et elles arrivent dans le cylindre que l'on a là sur le côté, qui s'appelle le réfrigérant, dans lequel le tuyau passe au milieu d'eau froide qui va permettre de recondenser les vapeurs et de le retransformer en liquide. Et au bas du réfrigérant, donc au robinet, on obtient l'esprit, le distillat, c'est-à-dire le résultat de la distillation, qui est un liquide à la fois fort en alcool, puisque ça fait 85 ou 86 degrés, mais surtout très fort en goût, puisqu'il a pris le parfum des plantes ou des fruits que l'on a distillés.
Et ça veut dire qu'après, il va falloir le retravailler au moment de l'assemblage. C'est là où la magie va aussi opérer finalement, où les dosages sont très importants.
Oui, parce que là, ça n'est pas bon à boire d'ailleurs, parce qu'à ce degré, c'est beaucoup trop puissant. Mais par contre, une fois dilué ou mélangé avec d'autres ingrédients, ça va donner le parfum qui est la base vraiment de nos liqueurs.
Alors on a deux alambics donc face à nous. Donc comment ça se passe? Parce qu'effectivement, là, il y en a un qui est fermé. Donc on se dit comment on arrive à faire rentrer quelque chose à l'intérieur. Là, en l'occurrence, celui d'à côté est ouvert. Donc ça veut dire qu'on charge. Il faut charger beaucoup pour obtenir finalement peu à l'arrivée, c'est ça?
Oh, pas beaucoup, parce que contrairement d'ailleurs aux distillateurs d'eau de vie, comme le cognac, l'armagnac ou les gens qui font de l'eau de vie de prune ou de poire, eux, ils partent de fruits dont ils vont extraire une eau de vie. Nous, nous partons de fruits, mais également d'alcool. Donc, on ne cherche pas une grosse production, on cherche à extraire le parfum. Donc, on n'a pas besoin de traiter de gros volumes. On met 50 ou 80 litres, selon les distillations d'alcool et de plantes, et on obtient ensuite un concentré.
Et là, ce qui est énorme, c'est qu'on transpire son histoire. On se dit que c'est un matériel qui a vu passer une production extrêmement importante. C'est quelque chose, ça fait quelque chose de travailler avec ce matériel-là.
Oui, ça, c'est clair que là, on a tout le poids, si l'on peut dire, mais un poids positif de cette histoire, de ces hommes et de ces femmes qui ont dû les utiliser au fil des générations, puisque ceux-ci, tous nos matériels, datent de l'installation de la distillerie du centre dans ses bâtiments actuels, c'est-à-dire dans les années 1860-1865. Et les alambics sont toujours répertoriés, comme tous les matériels de ce type, aux douanes. L'avantage, c'est que ce ne sont pas des matériels qui sont, si vous me passez l'expression, bradassés, donc ils restent à leur place. Bon, donc ils ne souffrent pas trop, mais on voit qu'ils sont quand même marqués, ils sont patinés, comme on dit.
C'est ce qui fait leur force. Alors, c'est vrai que c'est là où on prend conscience, quand on est dans ce lieu, on s'imagine le côté, le terme de fabrication artisanale, ça prend tout son sens. On parlait du pilon tout à l'heure, on imagine, vos collègues qui sont là, en train de piler les fruits, on imagine le travail.
Oui, c'est un travail à la fois de main d'œuvre, mais pas de main d'œuvre sur le plan de la masse de travail que ça demande, mais de soin et de délicatesse, parce que on travaille de petites séries, on fait des petits volumes, mais il faut que ça soit très soigné. Pour faire un parallèle, on fait de la haute couture, on fait pas du prêt-à-porter. L'avantage, c'est que le prix est quand même beaucoup plus raisonnable qu'une robe ou qu'un costume de haute couture.
Et c'est notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de découverte de la distillerie du centre installée au 54 de la rue de Belfort à Limoges, toujours en compagnie de Pierre Nouveau, le directeur de cette entreprise et maître artisan, distillateur, liquoriste qui nous fait découvrir cette grande histoire des distilleries de Limoges. Et il n'en reste plus qu'une, c'est celle où nous sommes installés donc tout au long de cette semaine. On était hier sur le processus de fabrication, on s'était arrêté à la distillation après différentes étapes de travail, mais évidemment on ne le voit pas directement, on l'a bien compris, on peut s'y essayer, mais je pense que ça va rapidement nous arrêter. On va encore donc avoir quelques phases de travail avant de pouvoir proposer tout ça en bouteille.
Effectivement, l'esprit, le distillat est très puissant en parfum, mais aussi très agressif en alcool. Mais son intérêt, c'est pas d'être consommé comme ça. Ça n'est vraiment pas bon, mais par contre, ça va donner quelque chose de délicieux une fois qu'on l'aura dilué ou associé avec d'autres ingrédients. Alors, ça peut être des eaux de vie, comme du cognac ou de l'armagnac, c'est le cas pour plusieurs de nos liqueurs. Ça peut être du sirop de sucre. De toute façon, il y a toujours du sucre, mais on en met plus ou moins selon les produits. Ça peut être de l'eau, ça peut être des vins de liqueur, il y en a des produits, des matières premières que l'on achète dans le sud de la France, vers Rivesaltes, donc pour certains produits. Donc, c'est un assemblage entre ce parfum et puis d'autres ingrédients.
Alors, ça veut dire qu'on a beaucoup parlé du respect du matériel, le respect du savoir-faire. On a souhaité garder ce côté ancestral également des recettes.
Alors, il y a eu de la création et on a même créé de nouveaux produits complètement. Mais je me suis beaucoup appuyé quand même sur les recettes telles qu'elles étaient, parce que l'intérêt, c'est aussi d'en faire ce témoin du passé, mais de consommer les choses telles qu'elles l'étaient. Le principal élément sur lequel j'ai joué, c'est la densité de sucre. Dans le temps, on sucrait beaucoup plus. Maintenant, on cherche des fruits un peu plus des goûts un peu plus francs et un peu plus légers, donc un peu moins sucrés. Mais ça nécessite d'avoir des fruits de très grande qualité, donc c'est vraiment la raison d'être de la distillerie. Donc l'assemblage est fait dans les récipients cylindriques que vous avez devant les yeux, là, qui s'appellent des conches, et donc dans lesquels on va mélanger les différents ingrédients, on va les remuer, on va remonter pour que ça soit mélangé de la meilleure façon, et puis ensuite on le filtrera et on le mettra en bouteille avec notre petite machine, parce que c'est pas vraiment une chaîne d'embouteillage, même si on a 4 becs à notre petite machine.
Voilà, c'est ce qui se passe donc juste là, donc ça veut dire qu'on fait variété par variété, évidemment, on ne mélange pas les différents alcools entre eux.
Oui, ça c'est clair que quand on a fabriqué quelque chose, il vaut mieux éviter de passer derrière un produit qui a un goût totalement différent. Donc on s'efforce d'avoir une certaine logique, une cohérence, mais dans chaque récipient, en général, on a des familles de produits. Il y en a qui sont un peu plus pour la noix, d'autres un peu plus pour la châtaigne, d'autres un peu plus pour les fruits rouges. Donc on s'efforce de ne pas trop mélanger les parfums ce qui évite d'avoir à tout remplacer à chaque fois.
Les parfums, justement, on n'en manque pas dans le lieu où l'on se trouve, c'est assez agréable. Alors j'ai du mal à reconnaître les odeurs précisément, vous me guidez.
Alors là, on a fabriqué du vin de fest, qui est un apéritif à base de vin, dont je me suis inspiré pour le créer il y a une vingtaine d'années, d'une recette du Moyen-Âge que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « Le ménagier de Paris », qui est le premier livre de recettes en langue française, même si le français de l'époque, c'est le français des visiteurs, hein, pour donner une époque que tout le monde connaît, avec ce vieux français. Mais je me suis inspiré de cette recette où il y a de la vanille, du gingembre, du galanga, de la muscade, de la cannelle, enfin... des épices douces, hein, pas d'épices trop fortes, et c'est un produit qui connaît un grand succès et qui est très agréable à la fois à l'apéritif ou pour accompagner un foie gras ou éventuellement certains desserts, en particulier les desserts aux pommes.
Et sa qualité vient d'être reconnue, mais ça, on en reparlera ensemble demain pour terminer la semaine. On n'a pas parlé du délai de fabrication de ces produits entre le moment où on va attaquer un cycle de production et le moment où on va pouvoir le mettre en bouteille pour le proposer à la clientèle. Il s'écoule combien de temps ?
C'est très variable, parce que les fruits rouges, par exemple, quand on les récolte, c'est l'été. On va les traiter tout de suite, si l'on peut dire, mais ensuite on fabriquera les liqueurs tout au long de l'année. On gardera les infusions bien au frais dans un coin. La châtaigne, on les ramasse au mois d'octobre en général. Donc on va les stocker aussi, déjà, pour les stocker dans de l'eau, comme ça elles ne vont pas s'abîmer. Et puis ensuite on va les distiller au fil des mois. Et puis ensuite, ces distillations, on les utilisera également peut-être plusieurs mois plus tard. Ça n'est pas forcément une chaîne... continue, hein, il y a des ruptures, on peut les mettre de côté et puis on les reprend quand on a besoin de fabriquer quelque chose.
L'avantage, c'est que la conservation du produit final est quand même assez tranquille.
Voilà, on a la chance d'avoir des produits qui ne sont pas des produits périssables et qui ne s'abîment pas et qui ne se pourrissent plus une fois qu'ils ont été mis dans l'alcool.
Et est-ce que ça fonctionne un peu comme le vin? Parce qu'effectivement, on s'est enfui derrière nous. Est-ce que c'est bien de les laisser tranquillement reposer, vieillir, pour reprendre le terme viticole?
Alors certains, oui, mais pas tous. Par exemple, les fruits rouges ne gagne pas à vieillir. Au contraire, plus on peut les consommer jeunes, frais, meilleur c'est. Ça garde beaucoup plus de fraîcheur et de vivacité de parfum. Par contre, les vieilles liqueurs comme la Sève Centrale, la Gauloise Verte, là, effectivement, le fait de passer en barrique, d'une part, ça leur donne un fondu supplémentaire, une finesse, une rondeur, ça atténue la puissance alcoolique et puis ça acquiert des arômes complémentaires. Donc là, les années leur font du bien.
Donc ça se jauge comment? Au goût? Il faut forcément venir de temps en temps voir un petit peu l'état du produit?
Ah ben évidemment, bon, bien sûr qu'on sait à peu près l'évolution que ça va avoir, mais il faut constamment vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Et puis ce sont quand même des produits vivants, des produits naturels, donc il y a toujours des variations.
Alors après, il y a le décor, hein. On a dit, on vient visiter, hein, cette entreprise, ce process de fabrication. Quand les clients viennent ici, il y a toujours ce petit effet. On s'imagine peut-être pas, quand on parle de fabrication artisanale, que ce sera à ce point-là d'avoir vraiment l'impression d'être à l'époque.
Oui, mais ce n'est pas un décor, c'est la réalité, c'est le décor naturel, si on peut dire. C'est notre environnement professionnel. C'est vrai que c'est très joli, c'est vraiment prenant. Bon, on n'est pas dans une usine avec des machines, des tuyauteries modernes partout. Bon, chacun son style, mais nous, cette rangée de foudres, puisque ces grosses barriques là qui font plus de 1000 litres chacune s'appellent des foudres, ils datent de 100 ans. Alors, tous ne sont plus utilisés parce que, n'ayant pas été utilisés pendant plusieurs dizaines d'années pour certains, ils ne sont plus en état de l'être, mais là, on les garde vraiment pour rester dans cette ambiance-là. Mais d'autres sont parfaitement en l'état et sont utilisés au quotidien.
Donc, il y a du bois et en face de nous, c'est quoi? C'est de la terre cuite?
Non, c'est du grès. Ce sont des cuves en grès dans lesquelles on faisait vieillir des produits qui, justement, ne devaient pas risquer d'être au contact de l'air. Parce que dans du bois, il y a toujours cette porosité du bois qui fait qu'il y a une micro-respiration et c'est ce qui est recherché. Par contre, dans le grès, complètement fermé et inerte, donc là, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur.
Donc voilà, en tous les cas, le décor est là, respecte l'histoire. On a une entreprise qui est en prise avec la réalité d'aujourd'hui, mais mine de rien, qui a su conserver cette marque qui fait toute sa force aujourd'hui.
Tout à fait, et j'espère bien que nous continuerons encore pour les générations à venir.
Et évidemment, nous, on va continuer avec un tout dernier rendez-vous demain pour parler une dernière fois de cette histoire-là, peut-être du logo. Je vois qu'on a peut-être un petit personnage qui demandera quelques explications. Et puis, on verra comment évoluera cette société dans les années qui viennent. On en reparle ensemble demain, même endroit, même heure. Et dernier rendez-vous de cette semaine que nous avons passé à la découverte de la distillerie du centre en compagnie de son directeur Pierre Nouveau, maître artisan et distillateur liquoriste également, histoire de famille et histoire limousine et limoujaude, surtout on l'a dit avec ce qui est aujourd'hui la toute dernière distillerie présente ici à Limoges. On a retracé l'histoire, on a parlé de ce savoir-faire, de l'utilisation de ces matériaux ancestraux et puis on a parlé du process de fabrication sur les deux derniers rendez-vous. On va refermer cette semaine en parlant de distinction, parce qu'effectivement c'est une production artisanale mais qui est unanimement reconnue, on le verra. Peut-être d'abord, on s'est quitté là-dessus sur le rendez-vous d'hier, le logo de cette distillerie du centre, certains l'ont peut-être déjà aperçu, cet angelot avec des ailes de papillon, on se dit mais d'où vient-il? Et lui aussi finalement il a une petite histoire.
Alors je ne sais pas d'où il vient, mais on a devant nous cette céramique peinte qui date des années 1900 et qui était une vieille publicité pour le produit leader de cette époque, le fleuron de la distillerie du centre, qui s'appelait la Sève Centrale, qui est une liqueur, ainsi que c'est marqué sur cette publicité, liqueur à base de fine champagne. Alors la fine champagne, c'est du cognac de grande qualité. Aujourd'hui, ce n'est plus de la fine champagne que l'on utilise, mais du cognac tout simplement, du cognac et de l'armagnac. Et c'est un assemblage avec une distillation de plantes, du cognac, de l'armagnac, et qui est mise à vieillir pendant des années dans les foudres en chêne que l'on a vues hier. Mais ce logo, cet angelot donc qui tient cette bouteille, donc dans les années 1900, on s'est dit 100 ans après que il pouvait devenir un peu le représentant de la distillerie du centre. Donc on en a fait notre logo.
Garder cette trace d'histoire. Et puis c'est vrai que pour l'anecdote, quand on regarde les étiquettes de l'époque, on avait l'impression que Limoges était finalement le centre du monde. Il y avait vraiment une fierté à mettre en avant Limoges. Ce que vous défendez encore aujourd'hui, cette fierté de cette histoire limoujaude.
Oui, à défaut d'être le centre du monde, ce qui est quand même un peu présomptueux, on peut quand même être fier des produits que l'on y fabrique.
Les consommateurs de ce produit, parce qu'on a beaucoup parlé des produits, mais qui les consomment aujourd'hui? On a l'impression que nos anciens, il y avait vraiment des traditions à boire ces liqueurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui perdure, qui arrive à se transmettre de génération en génération?
Oui, mais avec des modifications. Il est évident que les modes de vie ne sont plus les mêmes. Historiquement, je vais dire jusqu'aux années 60 à peu près, la liqueur était l'accompagnant quasi systématique des veillées. Le soir, il n'y avait pas la télévision. Il faut se souvenir que la télévision n'a pas toujours existé. Et donc, jusqu'aux années 60, les gens se réunissaient le soir, encore plus à la campagne qu'en ville, mais même dans les villes, avec les voisins, les amis, la famille, les plusieurs générations, et on racontait des histoires. Et donc, pour faire passer la soirée, on s'accompagnait également de quelques petites liqueurs, plus ou moins fortes, selon les goûts des personnes. L'arrivée de la télévision, le monde qui s'est accéléré, a fait que cette consommation a grosso modo disparu. Par contre, on consomme encore un peu de digestif, c'est-à-dire de liqueur en fin de repas. Mais on consomme de plus en plus, là c'est une consommation, un mode de consommation beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, de produits en cocktail. Alors des cocktails, ça veut dire tout simplement un mélange, un assemblage. Il y en a qui sont très simples, on peut faire de la gauloise avec du Schweppes, ça sera très bon, ou du jus de pamplemousse. Et puis on peut faire quelque chose de beaucoup plus compliqué, comme un mojito à la sauce limousine, si l'on peut dire. Donc en remplaçant, ça c'est une recette d'un cafetier de Limoges, place Denis Dussous, le café Krill, le café Limousin, qu'il a inventé, qui fait un mojito en remplaçant le rhum par la gauloise verte. Et c'est vraiment très très bon. Et c'est bluffant d'ailleurs, parce qu'on se demande vraiment ce qu'il y a dedans, mais en tout cas le résultat est très positif. Donc il y a plein de recettes de cocktails avec nos différents produits que l'on peut trouver sur notre site internet, mais chacun peut également en créer. Donc ça, c'est une consommation plus jeune, plus actuelle, qui a effectivement un peu remplacé les consommations plus traditionnelles.
Et les visiteurs qui viennent ici au musée de la distillerie, c'est quoi? C'est plus les anciens qui ont envie de revivre finalement l'époque de cette fabrication artisanale, ou la jeune génération justement se dit mais comment ça fonctionnait et a envie de savoir un peu ce qui se cachait derrière ces productions-là?
On a de tout. On a aussi bien des clubs du 3e ou du 4e âge que des scolaires qui viennent. avec la réserve que certaines classes, mais enfin on a surtout des écoles un peu dans les métiers de bouche, hein, de restauration ou d'autres, donc qui viennent avec des élèves pour
on
leur
peut
montrer.
Pas déguster les enfants de CE2 en fin de visite, hein.
Non, rassurez-vous, même bien au-delà du CE2, parce que on ne fait pas déguster les mineurs, hein. Ça c'est une règle que nous avons, mais donc, d'autant que nos produits sont des produits de plaisir et doivent rester des produits de plaisir et non pas des produits pour se mettre dans un état second. Ça n'a pas d'intérêt. Alors effectivement, il y a une curiosité de toutes les générations et on est surpris d'avoir beaucoup de jeunes. Il n'y a pas très longtemps, on a participé à une manifestation qui était surtout ouverte aux jeunes. Eh bien, on a eu beaucoup de visiteurs et ils sont tellement surpris de découvrir quelque chose comme ça que ça les passionne tout de suite.
Et la qualité est là. Alors si je vous le demande, vous allez me dire que oui, évidemment, mais d'autres l'ont confirmé avec des prix reçus à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les produits en eux-mêmes.
Oui, mais là, je vais surtout m'attacher aux distinctions des produits, parce que c'est ce que consomment nos clients. C'est vrai qu'au fil des années et même des siècles, la distillerie du Centre a obtenu de très nombreuses distinctions, des médailles à différentes expositions universelles, comme par exemple pour la Gauloise verte à l'exposition universelle de Paris en 1889, où elle a eu la médaille d'or. C'est l'exposition lors de laquelle la Tour Eiffel a été construite, hein, pour une page d'histoire. Mais il se trouve que il y a quelques semaines, puisque c'était le 28 février 2017, cette même liqueur, la Gauloise verte, a obtenu au Concours général agricole de Paris, qui se tient chaque année dans le cadre du Salon international de l'agriculture de Paris, une médaille d'argent, ce qui est extrêmement méritoire parce que dans sa catégorie, il n'y a pas une médaille d'or. Ça veut dire qu'elle a été reconnue comme étant la meilleure des liqueurs de plantes, puisque c'en est une. Et on a un autre produit qui a également eu une médaille d'argent, c'est le Vinfest, le produit que l'on avait créé il y a à peu près 20 ans pour commémorer le 8e centenaire de la mort de Richard Cœur de Lion. Et ce Vinfest, qui est une macération d'épices douces dans du vin de liqueur, a également eu donc cette médaille d'argent cette année. Il avait eu, lui, il y a quelques années, déjà une autre médaille d'argent et une médaille d'or. Donc ça veut dire que la qualité de nos produits est vraiment reconnue par des gens qui ne connaissent pas l'entreprise, puisque de Paris, on ne connaît pas tellement bien Limoges.
Ça permet de resituer au passage Limoges, effectivement, et de se dire que voilà, c'était primé dans les années 1800, que c'est primé encore en 2017. C'est de se dire on a réussi le challenge, finalement, de maintenir cette qualité à travers toutes ces époques, de permettre à cette liqueur de conserver ce qu'elle était finalement aux origines.
Tout à fait. Il ne faut pas faire preuve de fausse modestie. On est très, très heureux quand on a des médailles de ce niveau-là. Bien sûr que nous sommes contents quand nous participons à des concours régionaux, mais là, quand on est au Salon de l'agriculture, c'est quand même autre chose et ça nous conforte tout à fait dans les efforts et ça nous récompense de tous les efforts que l'on fait, mais que l'on fait au quotidien sans y penser et avec beaucoup de plaisir, parce que c'est extrêmement gratifiant et extrêmement plaisant de poursuivre, de perpétrer ces traditions et de se dire qu'on prend la suite de dizaines et de dizaines de générations qui ont fait ce métier avant nous.
Donc justement, pour terminer, le mot de la fin, c'est quoi? C'est l'avenir pour vous? C'est de rester sur ce côté artisanal, j'allais dire familial, hein, puisque c'est le cas aussi, mais peut-être avec la pression de se dire on est les derniers, donc il faut absolument se battre pour qu'on continue de fièrement défendre cette grande partie d'histoire de Limoges.
Oui, on va continuer, on est plein d'énergie et puis on est encore galvanisé par ces récentes distinctions. Mais non, notre objectif maintenant, c'est de sortir un peu plus de notre région, voire de nos frontières, parce que nous avons même expédié il y a quelques semaines aux Pays-Bas et on a des contacts avec d'autres importateurs dans d'autres pays d'Europe pour l'instant. Donc ça veut dire que la qualité de nos produits, leur singularité, et en particulier cette Gauloise verte qui est unique, nous laisse de grands espoirs pour l'avenir.
Donc voilà, c'est ce qui fait sa force, c'est d'être très local et finalement de pouvoir s'ouvrir au monde entier.
Mais la Gauloise, c'est la Gaule, c'est les Gaulois, c'était vraiment la France dans toute son histoire, donc on va essayer de poursuivre longtemps cette belle histoire.